Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Bien heureuse de vous retrouver en ce premier lundi d'avril. Assez frisquet, du moins ici à Montréal, je ne sais pas où que vous soyez en région. Ben, le printemps se fait attendre, on lui fait dire qu'on est bien patient et qu'on l'attend. Donc, vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé, vous êtes sur Canal M. Et je vous parle aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, de la maladie de Parkinson, qui est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente, et ce, jusque derrière l'Alzheimer, là, quoique ce n'est pas une course, mais je le dis parce que, bon, Alzheimer et après Parkinson, donc ça touche énormément de personnes au Québec. Plus de 25 000 personnes selon Parkinson Québec. Et si l'on compte les proches aidants, les familles, c'est plus de 100 000 personnes qui sont touchées par cette maladie-là. Et ce qui est assez interpellant en ce qui concerne la maladie de Parkinson, c'est que selon les recherches, de plus en plus de jeunes personnes reçoivent un diagnostic de Parkinson. On parle même dès l'âge de 30 ans. Évidemment, ça change tous les défis, je dirais les enjeux reliés à cette maladie. Et puisque avril est le mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson, je me donne l'occasion tout à l'heure d'en discuter avec la directrice générale de Parkinson Québec, Nicole Charpentier. Et puis, toujours étonnant de réaliser que le très petit, l'intime, peut devenir universel. Et j'entends par là un récit très personnel, familial, raconté au jeu, qui nous atteint droit au cœur, auquel on s'identifie, auquel on se reconnaît, comme dans sa propre histoire, comme dans sa propre famille. Et même si les réalités sont complètement différentes, et c'est ce que l'on retrouve dans le premier roman d'Alain Labonté, Une âme et sa quincaillerie, sorti il y a presque un an, c'est-à-dire le 14 avril 2015. Et comme Alain est une personne qui suscite à la fois ma curiosité et mon admiration, j'ai eu envie de l'inviter pour aborder les grands thèmes de son livre, c'est-à-dire la santé mentale, le deuil, le don de soi et plein d'autres belles choses. Allô Alain.
Bonjour Marianne.
Un plaisir de te recevoir ici en studio. Alain, vous avez dit 4 personnes sur 5 ont pleuré à la lecture de ce livre. Mm-hmm. J'en suis.
Ah et, oui?
Oui, je fais ici cette révélation et tout particulièrement à la troisième partie, celle qui relate ce père plus mm-hmm. grand que nature, mm-hmm. ce père adoré, que magnifié presque, on dirait, dans l'œil du petit garçon
oui.
que vous avez été, bien sûr, l'homme que vous êtes devenu, quasi héros, quasi surnaturel, à la fois humain parce que vous parlez de son grand cœur.
Mm-hmm.
Et on lui doit beaucoup à ce père, à ce monsieur Labonté, parce qu'il a été le déclencheur de ce livre, en fait, le décès de votre père. Pourquoi, à ce moment-là, s'être dit « OK, je dois écrire » ?
Oui, c'est une bonne question. Bien, en fait, dans Une âme et sa quincaillerie, on retrouve 3 chapitres principaux, dont le premier est ma mère. Et dans le chapitre de ma mère, je parle bien entendu de sa maladie mentale, des dépressions profondes, les fois où elle a eu recours aux électrochocs. Et la première fois, j'avais 12 ans et je me souviens de voir, je pense que je l'ai décrit dans le livre d'ailleurs, quand les ambulances sont venues chercher mm-hmm. ma mère, que mon père est dans la cour, puis il pleure, puis il voit ma mère quitter. Je m'étais caché, en fait, dans ma chambre. J'avais écrit sur un bout de papier qu'est-ce qu'il faudrait que moi, je fasse pour arriver à traverser la vie le plus légèrement possible. Et j'avais écrit aimer, être aimé, étudier, voyager et écrire un livre. Et pourquoi écrire un livre? Sincèrement, je pourrais pas le dire. Par contre, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais le français, j'aimais l'histoire, bon, tout ça. Et ce qui est arrivé, c'est que lorsque mon père est décédé, j'avais 40 ans, j'étais au pied de son lit, et son corps était encore chaud. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai touché, je l'ai embrassé. Et à un moment donné, je me suis comme projeté à sa place. je me voyais la prochaine génération, donc ouais. Le prochain à la ligne, en fait. Et je me disais, bon, OK, Alain, si tu as un mauvais diagnostic, qu'est-ce qui te reste à faire ici-bas? Et du coup, j'ai fait mon livre.
Ouais.
C'est pour ça que ça a été le déclencheur.
Il y a un passage très touchant qui relate un moment dépressif de votre mère qui est, bon, désespérée, qui attend le retour de votre mm-hmm. père à la fin de la journée.
Ouais.
Et soudain, quand cet homme arrive dans la maison, elle s'anime, elle s'allume. J'ai trouvé ça d'une grande, grande beauté et à quel point ça montre l'amour qu'il y avait mm-hmm. entre vos parents.
Ouais.
Cet homme, pilier un peu de votre famille, l'encre de votre mère,
absolument.
A été, avec bien sûr votre mère, le pilier de votre personnalité et de tout votre cheminement après.
Sincèrement, moi, je pourrais vous dire que je suis un des hommes privilégiés de la planète, en ce sens mm-hmm. que mon père aujourd'hui aurait 84 ans. Et donc, 84 ans, on s'entend, il est né en 1932. Et moi, j'ai eu un père vaillant, bienveillant, drôle. Il pleurait devant nous. Il nous disait qu'il nous aimait. Il nous prenait dans ses bras. Donc, aujourd'hui, j'aurai 50 ans dans 6 mois. Et ce que je viens d'énumérer, je sais que c'est assez rare encore mm-hmm. aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, d'avoir eu accès à autant de générosité, autant de cœur, autant d'humanité que ça, pour moi, très jeune, j'ai compris que c'était ça mon héritage dans
oui.
la vie. Et quand on est conscient de ça, je pense qu'on a la responsabilité de relayer par la suite. Peut-être pour ça que je fais beaucoup de bénévolat, je m'intéresse à plein de dossiers philanthropiques et tout. Mais chaque jour, je me dis que je suis vraiment quelqu'un de privilégié. Mmh.
Votre ouais. père qui vous disait, dans la vie, mon gars, il y a deux types de personnes, ceux qui lancent les pierres et ceux qui les érigent. J'espère
ouais.
que tu feras partie de la deuxième
ouais, ouais.
catégorie. C'est très parlant et c'est une image qui nous continue à nous
habiter. Ça m'avait touché. Puis surtout la fin, quand il m'avait dit, n'oublie jamais une chose, beaucoup de tes pierres que tu auras posées tomberont, bon an, mal an. Mais j'espère que tu auras le courage de mettre ton genou au sol, de les prendre et de les poser à nouveau, parce que tu verras que ça ne sera jamais perdu.
Mm.
Donc ça, c'est mon père qui est né à l'avenir. Il m'a dit ça alors qu'on traillait des vaches. Donc, tu sais, des fois, la culture, c'est quoi? Bon, la culture au niveau de l'école et tout ça, mais mon père, c'est ça, il y avait
ouais.
la culture du cœur.
Ouais,
c'est ce qui est le plus important dans la vie.
Et votre mère aussi, parce que vous dites,
oui.
quand elle ne donne pas, elle cherche à qui, à quoi donner.
Ouais.
Cette mère qui a vécu tout de même plusieurs épisodes dépressifs.
Ouais.
À l'époque où la santé mentale, on en parlait peu, la maladie mentale associée à beaucoup de tabous, beaucoup
ouais.
de silence, votre famille, vos frères et sœurs, vous avez vécu ça comment?
C'est vraiment une belle histoire, ça aussi, parce que d'aussi loin que je puisse me rappeler, je n'ai jamais vu un de mes frères ou une de mes sœurs avoir un regard accusateur ou empreint de gêne. Non, pas du tout. C'est comme si on avait grandi comme ça, dans cette fragilité-là.
Mm-hmm.
Et que c'est peut-être ça la beauté aussi d'être de la région, je pense, des fois. Parce que sur la ferme, avec mes grands-parents, on était 9. Donc, on était une équipe dans la vie,
ouais.
tu sais. Et c'est un petit peu comme au football. Quand il y en a un sur le banc, les autres continuent, tu sais. À un moment donné, il va se relever, puis il va venir remplacer quelqu'un. Donc, on avait appris à se donner la main, à regarder en avant, à regarder dans la même direction. Et même à l'école, j'en parlais pas nécessairement. C'était pas de la gêne non plus. C'était quelque chose que je vivais en famille. Bien entendu, mes oncles et mes tantes étaient conscients mmh. de cette réalité-là. Mais jamais, jamais, j'ai entendu quelque chose de négatif par rapport à ma mère. Et on sait, hein, vous en savez quelque chose, combien il y a de préjugés sur
oui.
la maladie mentale. Mais j'ai pas vécu ça, moi. Je sais pas. Je retiens l'amour qu'on avait. Et même, je dirais que souvent, on me demande si j'ai trouvé ça difficile d'avoir une mère dépressive.
Ouais.
Et je dis non. En ce sens que, quand la première fois j'avais 12 ans, je me souviens que j'arrivais chez moi, la porte s'ouvrait, Il y avait des bras qui s'ouvraient, il y avait un cœur qui s'ouvrait et on m'offrait le meilleur de soi.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, j'ai des amis, des gens de ma génération qui ont 40, 50 ans, qui ont des enfants, qui ont la garde partagée, qui ont le bateau, qui ont le condo, qui vont à Monaco à chaque année. Tu sais, toute la vie est belle, belle, belle. Mais ils ont les enfants une semaine sur deux et même quand ils ont des enfants, ils les font garder parce qu'eux doivent aller prendre un verre avec un tel ou ils ont un cocktail avec l'autre. Donc, moi, je pose la question... Qui a eu la plus belle des enfances? Est-ce que c'est moi avec quelqu'un qui me donnait tout l'amour qu'il y avait, toute cette disponibilité?
Une mère
ici?
Imparfaite, mais aimante.
Oui, et puis qui donnait tout ce qu'elle pouvait. Ou quelqu'un qui a tout, mais dans l'absence.
Oui. D'ailleurs, vous êtes très, très impliqué auprès de l'organisme Les Impatients.
Oui.
Vous consacrez d'ailleurs le deuxième chapitre à cet organisme. C'est illustré également de dessins, de croquis des Impatients.
Oui.
Est-ce que... Votre mère, est-ce que vous avez vécu à travers ces épisodes dépressifs, vous a donné l'envie de s'impliquer, de vous impliquer dans un organisme voué à la santé mentale?
Oui, absolument. Mais sans le savoir, c'est un peu ma mère qui m'a conduit là parce que, comme on disait un petit peu plus tôt, il y a tellement de tabous. Mais moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, quelqu'un qui est fragilisé ou quelqu'un qui va parler tout seul dans un coin, je suis pas mal à l'aise, moi, là-dedans. Au contraire, À la limite, j'ai du mal à voir la différence de quelqu'un.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, on est tous pareils. Puis même moi, je suis un impatient, mais à un degré différent.
Oui.
On est tous des impatients.
Oui.
Donc, pour moi, c'est bien important d'œuvrer auprès de cet organisme-là que j'adore. Même, si vous permettez, le 11 mai prochain, je vais faire un spectacle avec mon livre. Au Lion d'Or, donc à 19h30, ça va être quelque chose de particulier parce que je vais être sur scène avec la mère et la fille, Sophie et Françoise Fauché.
Mm-hmm, oui.
Et j'ai demandé au band de musicothérapie des impatients de venir faire la première partie. Donc, ça va être un moment absolument magique, ça va être le fun.
Également, 13 avril, au Centre Wellington, c'est le vernissage « Parle-moi d'amour impatients ».
Oui, ça, c'est un beau rendez-vous, hein, parce que, oui, il y a des artistes en art visuel qui nous offrent des toiles, ce qui permet pendant environ un mois, en tout cas jusqu'au 25 mai, d'avoir un encan silencieux, et à la fin, bien, on fait monter les enchères, et les impatients participent à l'expo en faisant leurs propres œuvres sur des canevas. Hein, c'est un beau rendez-vous.
Alain, le livre, on le disait tout à l'heure, est sorti il y a presque un an maintenant. Et on en parle encore beaucoup, notamment parce que le sujet des électrochocs est ressorti dans les médias récemment. Mm-hmm. Et vous en parlez, est-ce que vous en parlez dans ce livre de l'épisode des électrochocs?
Oui, un peu.
Un petit peu.
Un peu.
Votre mère en a subi des électrochocs
à trois reprises.
Comment on assiste à ça? Comment on réagit face à ça quand notre mère a à vivre avec cette réalité? Parce qu'on n'en parle pas souvent. On associe beaucoup les électrochocs à quelque chose de très extrême, même qui vient on pense à Alice Roby, tout ça, des histoires un peu macabres. Ça ne s'est pas passé comme ça pour vous?
Pas du tout. La beauté de Dans une âme et sa quincaillerie, en tout cas, ce qui est arrivé aussi... je suis content parce que j'ai de très belles critiques partout où je suis allé. Ça, j'en suis très, très heureux. Par contre, je suis très heureux aussi que les gens aient retenu les problèmes de santé mentale, l'intérêt que je porte à la santé mentale. Et dernièrement, comme vous disiez, avec les électrochocs, donc j'ai participé à des cahiers spéciaux, des entrevues télévisées, tout ça. Je ne pensais pas que c'était pas le but de l'opération.
Que cet angle-là allait accrocher
c'est
les
ça.
Gens.
Ouais. Mais justement, ce qui me fait plaisir, c'est, comme vous disiez, les gens retiennent Alice Roby, vol au-dessus d'un nid de coucou, bon, des trucs un peu tragiques, hein, un peu tordus même, je dirais. Et je pense que maintenant, les gens sont peut-être prêt à entendre des histoires heureuses, parce que ma mère, c'est une histoire heureuse. Et c'était une histoire nécessaire aussi, parce que ma mère, avec ses dépressions profondes, elle devenait dans un état végétatif. Donc, elle ne parlait plus, elle ne marchait plus, elle ne voyait plus. Donc, la médication ne faisait aucun effet. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est là que les électrochocs sont formidables, parce que ça convient à des gens à 100%. Donc, je trouve ça bien intéressant d'avoir pu partager cette expérience de vie-là à un grand nombre de personnes, parce que même l'autre jour au Salon du livre, j'étais très, très touchée. Il y a une petite fille de 12 ans qui est arrivée au kiosque. Elle me dit « Ah, monsieur Labonté, je suis tellement heureuse de vous rencontrer, j'avais peur de vous manquer. » Donc, j'ai dit « Ah oui, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, comment se fait-il que tu me connaisses? » Ben, elle dit « J'ai lu votre livre. Mm-hmm. » Mais j'ai dit « T'as quel âge? » Elle me dit « 12 ans. » J'ai dit « Mon Dieu, j'ai quand même pas écrit Martine à la plage. » Je suis quand même étonnée, tu sais, ça me fait plaisir. Mais elle dit « Vous savez, elle dit, j'étais tellement heureuse parce que elle dit, chez nous, ma mère, elle a eu des électrochocs et on n'en parle jamais. » Elle dit « Grâce à vous, elle dit, j'ai découvert que vous, quelqu'un en parle.
Oui. » Bien, ça ramène à dire ce que je mentionnais tout à l'heure, Alain, l'intime rejoint
effectivement.
Paquet de gens. Donc, votre histoire devient universelle et vous en recevez beaucoup des commentaires comme ça.
Je suis vraiment étonné. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, hein, les mots voyage, j'ai des gens qui m'écrivent de Dubaï, de l'Espagne, d'Hong Kong, de la Suisse. Je suis étonné de voir le parcours qu'il a fait dans la dernière année. Soit les gens l'ont commandé ou avec la version électronique aussi. Mais moi, dans la vie, j'ai jamais trouvé la vie rose, bien que j'aie eu une vie merveilleuse.
Et que vous êtes lumineux quand même.
Ah, c'est gentil. Par contre, même si je la trouve pas rose, j'essaie à chaque fois de repérer la petite faille où il y a la lumière qui passe. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est important. Et je pense avoir réussi à le transmettre dans ce livre-là. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens qui m'écrivent, beaucoup de gens qui ont pleuré aussi, que ça les a interpellés.
L'avant-dernier chapitre de votre livre, c'est plus, j'ai l'impression, le cheminement, la transmission, ce qu'il reste d'eux. Page 89... Je lis un passage. « En venant au monde, le ciel dépose dans notre berceau une enveloppe dans laquelle se trouve un parcours terrestre différent pour chacun. C'est bien la preuve que nous ne nous appartenons pas. » Est-ce que vous croyez au destin, Alain Labonté?
Je crois... Ben, le destin... Je ne crois pas aux choses qui arrivent toutes seules. Je crois qu'on construit. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de route à suivre, qu'il y ait de chemin, parce que... mais il y a une voie à entendre et c'est la sienne. Je pense qu'il faut faire le choix de se tenir debout et d'avancer. Et oui, le destin va se présenter. On y contribue, on y participe.
Vous n'avez pas peur de mourir?
Pas du tout. Moi, je suis prêt à mourir.
Parce que vous avez accompagné des gens dans leur dernier souffle?
Oui, à 7 reprises, j'ai accompagné des gens.
Ce qui n'est pas banal.
Non, c'est pas banal. c'est la vie qui a fait comme ça. Autant mon père ou des amis ou même des employés qui étaient seuls. Je me souviens d'un type à l'époque qui avait le sida, qui venait de Marseille. Sa famille l'avait renié. Donc, il est entré à l'hôpital et on lui a annoncé qu'il avait le neurosida. Lui, il restait un mois et demi à vivre. Il pleurait tellement. Vous savez, quand il y a une solitude qui nous habite, mais qu'on n'a pas choisi, c'est difficile. Mm-hmm. Et devant ce tableau-là, ben, pour moi, c'était impossible de faire semblant que cette peine-là n'existait pas. Donc, je l'avais rentré à la maison Ludovic. J'avais décoré sa chambre à tous les soirs après le travail. Je m'en suis occupé. Je l'ai enterré. Mais c'est une circonstance de la vie. C'est un peu comme quand j'ai découvert le Centre Filou. Quand j'ai vu les enfants handicapés, quand tu es témoin d'une réalité comme ça qui est difficile, ben moi, je ne suis pas capable de faire semblant que les choses n'existent pas. Mm-hmm. J'essaie, à ma façon, du mieux que je peux, d'y participer.
Il n'y a pas de jeu d'autruche avec vous, Alain Labonté.
Pas trop.
Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous. 15 et 16 avril, Salon du livre de Québec. Mm-hmm. Également, le spectacle au Lion d'or. Ça, c'est le 11 mai, Une âme et sa quincaillerie avec Françoise et Sophie Fauché. Oui. Également, vous travaillez sur 4 nouveaux ouvrages. Une chance que vous ne dormez pas, Alain Labonté. Et j'ai l'impression qu'Une âme et sa quincaillerie continuera à voler de ses propres ailes, à toucher bien des cœurs. Merci de le faire, Alain Labonté. Et puis, on continue de vous suivre dans vos nombreuses activités.
Je vous remercie.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Nicole Charpentier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice générale de la société Parkinson, de Parkinson Québec, hein, on doit dire maintenant, je pense. C'est votre nouveau nom.
Tout à fait, depuis juillet 2015.
Donc, un moment idéal pour se parler ce mois d'avril, qui est le mois de sensibilisation à la maladie de Parkinson. Et ce que je lisais dans vos différents communiqués de presse pour ce mois d'avril, et ce qui m'interpellait d'entrée de jeu, Nicole, c'est ces diagnostics qui tombent de plus en plus tôt pour cette maladie et qui touchent des gens âgés d'à peine 30 ans. C'est une réalité qui existe réellement, ça?
Tout à fait. Peut-être une précision d'entrée de jeu. Bien qu'on ait 5 à 10 % des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson et qui sont diagnostiqués avec la maladie de Parkinson, qui sont âgés de moins de 40 ans, le diagnostic tombait autour de 55-60 ans il y a environ 10 ans, mais maintenant il est plutôt autour de 60-65 ans. Donc, le diagnostic ne tombe pas nécessairement plus tôt, okay. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui vivent avec la maladie qui sont atteint de moins de 40 ans.
Et évidemment, ça change les enjeux qui sont reliés à la maladie.
Tout à fait. Les grands enjeux actuellement, il faut se le dire, en 2016, on a encore trouvé aucun remède pour la maladie, bien que plusieurs recherches et plusieurs hypothèses, on a connaît pas encore la cause de la maladie. Il y a aussi un enjeu qui est de taille, c'est celui de mieux faire connaître cette maladie-là puis ses incapacités. On a habituellement tendance à l'associer de façon réductionniste à des tremblements. Mm-hmm. Alors, un des enjeux, c'est de sensibiliser à la fois la population en général, mais aussi nos gouvernements et plusieurs personnes qui vivent avec la maladie sur le détail, les informations relatives à cette maladie-là pour pouvoir en assurer une meilleure prise en charge à la fois par le système de santé puis par les personnes qui sont atteintes de la maladie puis leurs proches. Vous savez, en 2016, il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement pas encore accès à un neurologue spécialisé.
Oui.
Puis il y a plusieurs traitements qui ne sont pas nécessairement encore appuyés sur les bonnes pratiques notamment sur la prise en charge, la prise de médication régulière à heure fixe en tout temps. Puis souvent, quand ils se présentent à l'urgence ou pour recevoir des soins à l'hôpital, leur médication leur est retirée, puis ça engendre plusieurs problèmes qui sont parfois importants.
Mm-hmm. J'ai l'impression aussi, Nicole, et vous me corrigez si je me trompe, que le Parkinson, c'est un petit peu l'enfant pauvre de la recherche, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à d'autres maladies. Bon, je pense bien sûr à l'Alzheimer, là, qui suscite énormément l'intérêt des chercheurs, mais peut-être un petit peu moins au Parkinson.
En fait, c'est toujours motivé par l'argent. Vous savez,
mais
plus
oui.
Il y a de ressources financières, plus on peut faire de recherches. Donc, en effet, on trouverait intéressant qu'il y ait de plus en plus de financement pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Toutefois, pour donner espoir aux gens, il y a plusieurs volets, plusieurs axes de recherche qui sont en cours, notamment au niveau de la génétique, au niveau des cellules souches, pour trouver également des nouvelles molécules qui pourrait améliorer la qualité de vie des gens qui vivent avec la maladie. Là, pas seulement trouver le remède, mais aussi pour améliorer le quotidien.
Oui. Et pour améliorer le quotidien, les neurologues s'entendent pour dire que l'activité physique, d'être en mouvement, d'être actif, ben, c'est déjà une très, très bonne piste. Et à mon sens, Parcours Parkinson, qui est un événement qui aura lieu en 2016, et peut-être c'était l'un des objectifs que vous aviez envie de viser avec cet événement.
Tout à fait. Parcours Parkinson, c'est notre nouvel événement là pour Parkinson Québec. C'est notre événement provincial de collecte de fonds annuel pour amasser des ressources financières pour les régions, pour soutenir les différents services de proximité. Alors, la formule qui a été renouvelée cette année prendra une allure de marche, mais c'est combiné à un volet hybride, un volet sportif pour augmenter l'intérêt, mais aussi trouver des nouvelles façons créatives de mobiliser toute la communauté puis les milliers de personnes qui vont décider de relever le défi de bouger avec nous. Alors, on a comme objectif d'atteindre un parcours de 5000 km en cumulant tous les pas effectués par les participants qui vont se joindre à nous. Et ultimement, cette nouvelle activité de collecte de fonds permettra de donner le goût à toutes les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson de se mobiliser, de bouger.
Oui.
Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer, peuvent s'inscrire. Notre site est maintenant en ligne. C'est le www.parcoursparkinson.ca.
Voilà. On le glissera sur notre site également, Nicole Charpentier. C'est aussi une façon, cet événement-là, de sensibiliser les proches au fait que c'est important pour leurs proches malades de bouger, d'être actifs et de les encourager en ce sens-là. Une façon aussi, vous le disiez, d'encourager les services en région. Est-ce que ces services-là sont aussi bien desservis que dans les grands centres, Nicole?
Disons que c'est très variable d'une région à l'autre. On s'appuie principalement sur des bénévoles qui sont extrêmement impliqués, engagés, motivés et compétents. Alors, les services vont varier d'une région à l'autre, mais essentiellement, c'est des services de proximité en sens que on est là pour répondre aux questions, on peut rencontrer les gens, on a de l'information à leur partager, on a aussi, on leur donne accès à des groupes de soutien, des groupes d'entraide, des groupes d'exercices. On prépare aussi des conférences sur des sujets qui sont d'intérêt pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. En fait, on est le trait d'union entre les visites et les spécialistes.
Voilà.
Et voilà, c'est souvent une façon aussi de briser l'isolement parce qu'il y a des activités sociales qui sont organisées. Puis ça permet à différentes personnes de créer des liens entre elles.
Donc, on glissera le www.parcoursparkinson.ca pour inciter les gens à s'inscrire à cette marche qui vise à cumuler 5000 km avec tous les pas, bien sûr, des participants. Également rappeler que le 11 avril, c'est la Journée mondiale de la maladie de Parkinson et qu'il y a plein d'autres activités pendant ce mois qui sont, je dirais, soutenues par votre organisation Parkinson Québec. Nicole Charpentier, on les glissera sur notre site parce que le temps nous échappe, ce temps qui est sans pitié. Nicole Charpentier, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, un plaisir renouvelé pour moi.
Bien, c'est réciproque. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console qui m'accompagne. C'est Marianne Paquette derrière le micro. On est là toute la semaine. Donc, rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.